Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Bonsoir, bonjour, pardon. Bonjour, bon matin, bonsoir, comme vous voulez, pardon. Il est 13h et vous écoutez l'émission On Jase Politique sur la radio CFAC 88.3. Une émission hebdomadaire où, tout simplement, on jase politique. Cette semaine, le thème sera la souveraineté du Québec. Ou plus précisément, les contradictions internes à l'éventuel camp du oui. Donc, pour parler un peu du sujet, il semble évident que le thème de la souveraineté du Québec devient un peu en vogue aujourd'hui. C'est l'un de ceux qui est le plus débattu, notamment du fait de la popularité du Parti québécois mené par Paul Saint-Pierre Plamondon, qui actuellement mène les sondages en vue de l'élection provinciale prévue d'ici un an. Donc, et puis surtout, il prévoit de faire un référendum à l'issue d'un éventuel premier mandat. Donc forcément, les gens n'ont pas trop le choix d'en parler, et c'est ce que nous, on va faire. Donc on va notamment aborder les tensions entre les deux principaux représentants du camp du oui, à savoir le Parti québécois et Québec solidaire, mais également incluant d'autres alliés potentiels, comme on verra. Et plus généralement, vers la fin, on verra ce que cela pourrait éventuellement augurer pour le camp du oui. Cette semaine, ce n'est pas un, mais deux invités. Aurélien, l'ami que j'invite d'habitude, mais aussi un nouvel invité, Simon, que j'invite à se présenter.
Salut, bonjour. Moi, c'est Simon Guillette. J'ai étudié en politique appliquée de 2017 jusqu'à 2022 et je m'intéresse beaucoup au sujet de la souveraineté.
Parfait, merci. Et Aurélien, mon invité habituel.
Oui, bonjour, je suis Aurélien. J'ai fait un bac en économie à Sherbrooke et je suis en maîtrise de politique appliquée internationale.
Merci. Et donc, moi, c'est Maden, diplômé en maîtrise d'histoire à l'université de Sherbrooke et tout simplement passionné de politique. Bref, je comptais aborder deux grands thèmes notamment. Et mon premier grand thème, c'est tout simplement le clash comme tel entre le PQ et QS au sujet de la souveraineté. De manière générale, je ne vais rien vous apprendre en disant que le PQ est le principal représentant du « oui ». Depuis sa fondation en 1968, avec ses nombreuses gouvernances au niveau provincial et ses deux référendums, dont le premier en 1980 et le deuxième en 1995, et aussi sa place actuelle dans les sondages sous Paul Saint-Pierre Plamondon ou PSPP, et la volonté de réaliser un troisième référendum dans le cadre d'un éventuel mandat péquiste. Mais pour autant, nous nous retrouvons face à un deuxième grand représentant affirmé du camp du oui, et non des moindres, c'est Québec solidaire, QS, un parti souverainiste de gauche fondé en 2006 qui vise à réaliser lui aussi l'indépendance par un référendum toujours comme le PQ actuellement. Mais en parallèle, il défend la nécessité d'instaurer des politiques économiques et sociétales qui se veulent plus égalitaires et progressistes. Donc pas mal proche de la gauche dans le sens qu'on l'entend actuellement. De manière générale, Québec solidaire a toujours affirmé faire partie du camp du « oui ». Du moins, c'est ce qui est inscrit dans ses principes et différents programmes depuis sa fondation. Et depuis le début, défend l'idée d'un référendum au premier mandat. Pour autant, d'autres souverainistes accusent QS de ne pas l'être vraiment, notamment au sein du Parti québécois. Il lui reproche notamment son idée de conditionner l'indépendance à un projet de société. Plus concrètement, QS aimerait idéalement qu'un pays du Québec corresponde à leur vision économique et sociétale des choses, telles que j'ai décrites. Et pour les souverainistes purs et durs, à l'inverse, l'indépendance devrait se faire coûte que coûte. Je pense notamment à l'ancien premier ministre péquiste Bernard Landry qui disait « L'indépendance n'est ni à gauche ni à droite, elle est devant nous. » Mais pour QS, l'indépendance serait une opportunité car il considérait que seul un Québec avec les pleins pouvoirs pourrait mettre en place son projet de société. Il considérait que dans le Canada, il n'y aurait pas sa place pour mettre en place toutes ces mesures sociales. Donc c'est une conception assez pratique des choses qui s'éloigne d'une vision un peu plus abstraite, voire émotionnelle, sans vouloir être péjoratif, de la nation. Ce que QS veut faire, notamment dans le cadre de l'indépendance, préalablement à cette démarche, c'est monter une assemblée constituante. Ce serait de sélectionner des citoyens tirés au sort qui aurait pour mission d'élaborer ensemble une constitution pour un futur Québec indépendant. Et c'est un document qui sera justement soumis dans le cadre de ce référendum pour l'indépendance. Donc le oui et le non, c'est officiellement la question, ce sera de ratifier ou non ce référendum et donc le projet de pays. Et mais par rapport aux critiques qui sont adressées à QS, donc déjà, comme j'ai dit, on lui reproche de mettre des conditions au projet souverainiste, mais aussi on lui reproche d'autres choses. Par exemple, tous les électeurs, voire les membres de QS, ne sont pas souverainistes. Parce qu'il faut savoir que 35% des électeurs de QS se réclament souverainistes, tandis qu'une proportion assez équivalente affirme le contraire. Donc 35%, c'est relativement faible pour un parti qui s'affirme souverainiste, ce qui pour certains laisse présager que QS perd plus un électorat progressiste que souverainiste tel quel. En outre, c'est un parti qui se fait reprocher d'être woke, dans le sens qui favoriserait les minorités au détriment du Québec, du moins selon les opposants. Aussi, les opposants reprochent à QS un soutien au nouveau parti démocratique aux élections fédérales, plus que le Bloc québécois qui, lui, est souverainiste. Nouveau parti démocratique, donc parti de gauche au niveau fédéral, mais qui, lui, est plutôt réputé centralisateur, donc à contre-courant pas mal de souverainisme. Et un autre reproche qui est fait à QS, c'est le fait de faire diviser les votes, parce que depuis qu'il s'est présenté, effectivement, dans certaines circonscriptions, il y a une tendance à la division entre les candidats du PQ et de QS, ce qui a causé, cette division ayant causé la perte de plusieurs comtés pour le PQ. Donc bref, ma première grande question pour vous, qui est le plus souverainiste entre PQ et QS?
Faut d'abord mettre en contexte que le PQ et Québec solidaire sont deux partis qui n'ont pas été créés à partir des mêmes fondements. Tout d'abord, le PQ, lui, c'est un parti qui a été créé en coalition à l'appui d'une idée principalement, c'est-à-dire l'indépendance. Dans cette famille-là, il y a des gens qui vont de la gauche jusqu'à très à droite et ils ont décidé de se centraliser sur une idée. Dans le cas de Québec solidaire, on le considère davantage comme un parti idéologique, c'est-à-dire un parti qui va mettre de l'avant un programme économiquement à gauche, par exemple, plus de transports en commun, la lutte contre les changements climatiques, l'égalité entre les hommes et les femmes, et il y a l'indépendance qui servirait de levier pour appliquer ces politiques-là. Ainsi, c'est là que rentre la chicane entre le Parti québécois et Québec solidaire, c'est qu'il y en a un que l'indépendance prend une place beaucoup plus importante dans son programme. Mais et par rapport à la critique sur les conditions à l'indépendance, il faut aussi mentionner que le Parti québécois, dans son histoire, au moment où ils n'ont pas organisé de référendum, ont eux aussi parlé de conditions à l'indépendance. Par exemple, lorsque le Parti québécois a perdu le deuxième référendum sur la souveraineté, Lucien Bouchard avait mentionné qu'il n'y aurait pas de référendum tant et aussi longtemps que les conditions gagnantes ne seraient pas réunies, les conditions gagnantes n'ayant pas été clairement définies. Toutefois, il avait précisé que une des conditions gagnantes serait d'équilibrer le budget provincial du Québec qui n'avait pas été équilibré depuis 40 ans. C'est quelque chose qui est pas mal en soi, étant donné que l'équilibre budgétaire donne un bon coup de main à l'économie. Toutefois, il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas le luxe d'avoir l'équilibre budgétaire et pourtant, ça ne délégitimise pas pour autant leur indépendance. Par exemple, le Canada, avec le budget qui a été annoncé il y a peu de temps.
Merci beaucoup. Aurélien, voulais-tu dire de quoi là-dessus?
Oui, je suis assez en accord avec ce que Simon nous a dit jusqu'à date. C'est vrai que là maintenant, avec les tensions qu'il y a entre le PQ et QS, je pense que QS est un peu sur... Ils réaffirment maintenant un peu leur position souverainiste avec Sol Zanetti qui a été élu co-porte-parole du parti en rejoignant ainsi Ruba Gazal. Mais c'est sûr qu'il y a deux visions de la souveraineté entre QS et le PQ et actuellement... Le PQ se revendique potentiellement plus souverainiste parce que le QS se revendique de souverainisme, un souverainisme progressiste, mais on a l'impression un peu que dans ses discours, de comment ils parlent, de leurs projets, de leurs convictions, ils parlent de la souveraineté, mais pas comme leur sujet principal. C'est un de leurs sujets principaux, mais Il y en a d'autres. Le logement, le progressisme, faire face à la montée de la droite et tout ça. Alors que le PQ parle aussi d'autres sujets, bien sûr. Mais pour eux, c'est vraiment la souveraineté. C'est le truc majeur qui répond à tout. Alors que pour QS, c'est plus la souveraineté, ça répond presque à tout, mais c'est pas un peu l'étape finale pour eux. C'est une des choses qu'il faut faire pour que le Québec se porte bien, alors que pour le PQ, c'est vraiment la chose à faire pour que le Québec se porte bien.
Très bien, merci. QS, en soi, comme on l'a dit, reste souverainiste, mais... Et puis, comme j'ai dit au début et comme vous l'avez dit, c'est un projet qui est assez subordonné, en fait. C'est une souveraineté qui est assez subordonnée à un autre projet qui, comme tu l'as dit, Aurélien, est comme un projet final, en fait. Le projet final, ce n'est pas la souveraineté, mais c'est autre chose. Donc, la souveraineté pour QS, ce serait comme un marchepied, alors que pour le PQ, c'est plus une fin en soi, en fait. Donc, parce que je voulais un petit peu dire mon avis là-dessus, enfin, mon analyse personnelle et ma vision personnelle des choses. Personnellement, donc, moi-même, je pense que QS reste globalement souverainiste. Ça reste une de ses raisons d'être. Ça reste une de ses raisons d'être parce que dans sa déclaration de principe par exemple qui a été votée en 2006, donc avec les grands principes genre nous sommes écologistes, nous sommes de gauche, nous sommes démocrates, progressistes, altermondialistes, c'est aussi nous sommes d'un Québec souverain et solidaire, et dès le début ils promettent l'indépendance. Et puis comme tu l'as dit Aurélien, le tandem actuel penche pas mal en cette faveur avec Solzanetti et Ruba Gazal qui eux font partie de la frange nettement plus souverainiste de Québec solidaire. Enfin, une frange quand même plus à gauche que la moyenne sur les autres enjeux, mais en tout cas qui reste souverainiste. Donc là-dessus, on peut leur accorder cela, c'est certain. Et puis en outre, j'aimerais bien ajouter une chose, c'est que comme on l'a dit, le PQ, c'est un peu sa raison d'être, la souveraineté, mais le PQ, d'une certaine manière, enfin si je me mets du côté de QS, le PQ a des choses à se reprocher aussi, parce que le PQ n'a pas toujours défendu l'idée d'un référendum, voire de la souveraineté, du moins à court terme. Il y a bien eu des périodes, notamment les périodes post-référendaires après 80 et après 95, où là les chefs se positionnaient plus sur une autre approche qui disait la souveraineté c'est ce qu'on vise dans le fond, mais c'est pas une priorité, on va plutôt affirmer la place du Québec au sein du Canada, comme un peu comme le beau risque de René Lévesque ou aussi il y avait Lucien Bouchard puis Bernard Landry après Parizeau, donc après 95, qui avait toujours la souveraineté en optique, mais qui par exemple Bouchard lui avait peut-être plus l'économie, notamment le déficit zéro en vue d'abord, si je ne me trompe pas. Puis après ça, dans les années 2000, le PQ a beaucoup varié entre une position un peu plus attentiste comme celle-là ou un peu plus référendiste. Et là, je pense beaucoup plus à Pauline Marois. Pauline Marois, à partir de son élection à la tête du PQ en 2008, si je ne me trompe pas. Et puis quand elle était élue première ministre entre 2012 et 2014. Donc la position était nettement plus attentiste. Et c'est ce qui a fait aussi, ce qui a donné du moulin à moudre, du grain à moudre à Québec solidaire sur la souveraineté, parce que là, QS bénéficie beaucoup plus d'un sort de momentum souverainiste.
Et aussi avec la CAQ, d'ailleurs.
Oui, aussi, ouais. Bon, après...
Parce que vu que le PQ affaissé un peu sa volonté de faire un référendum avec Pauline Marois, la CAQ a été capable de monter dans le sondage pour 2018 pour se dire on peut pas faire la souveraineté, c'est fataliste. On va pas être fédéraliste parce que fataliste. Choisissez le camp du milieu.
Ah, ok. Donc ce que tu veux dire, c'est que le PQ dans les années 2010 un peu pavé la voie à la CAQ.
Exactement.
Sur la troisième voie.
Parce qu'il s'assumait pas le PQ en fait.
C'est ça. Ouais. Et puis le PQ dans toute son histoire, on voit ça. J'ai dit dans les années 80, il y avait une bonne frange dont notamment le premier ministre Pierre-Marc Johnson, qui il était au pouvoir pendant quelques mois seulement, qui lui était clairement nettement dans cette tendance là et qui était devenu beaucoup plus ambigu sur le référendum, enfin sur la souveraineté, et qui avait même refusé explicitement de soutenir le référendum de 95. Mais après voilà, pour QS, effectivement on peut légitimement lui reprocher d'être un petit peu contre-productif dans son approche, parce que comme j'ai dit, il subordonne son projet souverainiste à un projet de société, et son projet de société c'est un projet qui est quand même nettement à gauche, et donc je ne dis pas que ça exclut tous les Québécois, mais beaucoup de Québécois qui sont peut-être plus modérés ou plus à droite, si le but c'est de faire l'indépendance et surtout par un référendum, de fait ça implique de rassembler un maximum de gens, de parler à un maximum de gens. Je ne pense pas que proposer un projet de société, aussi noble soit-il, un maximum de gens et ainsi subordonner l'idée d'un référendum, je ne pense pas que ce soit véritablement productif. Donc après, il y a aussi ce qui met surtout en avant, c'est comme j'ai dit, c'est l'Assemblée constituante qu'elle contient des citoyens tirés au sort. Comme c'est des citoyens tirés au sort, ça peut être des citoyens de droite qui vont proposer du moins des dispositions à la future constitution qui plairaient peut-être un peu plus à des électeurs plus de droite aussi. Donc c'est sûr que c'est à voir, mais je pense que là-dessus, le PQ a peut-être un peu plus de légitimité, entre guillemets, à diriger le camp du oui, ne serait-ce que par sa nature, qui vise avant tout à réaliser l'indépendance du Québec avant un projet de société quelconque. Même si après, le PQ, on en parlera en deuxième partie, enfin, à moins que vous vouliez faire des remarques après la pause, mais en deuxième partie, on parlera justement des ambiguïtés du PQ sur ses politiques en dehors du référendum. Nous allons d'abord passer à la pause. On reprend donc l'émission, et je crois que Simon, tu avais des éléments à ajouter.
Oui, effectivement, à propos du Parti québécois et de la stratégie par rapport au référendum, il faut se rappeler les élections de 2014. Pauline Marois a été au pouvoir depuis environ 18 mois. Elle a déclenché des élections hâtives, puis elle a fait une erreur monumentale dans sa campagne, c'est-à-dire intégrer Pierre-Carl Péladeau dans son équipe. Et Pierre-Carl Péladeau avait une approche différente par rapport à la souveraineté. Et le jour où c'est officialisé, il a levé son poing et il a crié « On va enfin l'avoir, notre pays ». Après, ce qui est arrivé, c'est que Pauline Marois a dû se justifier en disant qu'on ne fera pas de référendum tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas prêt à en faire un. Résultat, le Parti québécois n'a pas arrêté de perdre des appuis jusqu'à temps que le Parti libéral de Philippe Couillard prenne le pouvoir avec une bonne majorité de 70 sièges. Et un autre point que je voulais rajouter, c'est aussi par rapport... Non, j'ai oublié mon point, fait que je vais laisser Aurélien rebondir.
Déjà, je suis le français de la gang. Bon, Madone est français, mais il est breton, donc c'est un peu un hybride original. Ah, je rigole. Mais ultimement, ça, je viens de découvrir. Donc, Pierre-Carl Péladeau, l'ancien fondateur de Québécois, c'est ça?
C'est le fils du fondateur. Fils le fondateur, c'était Pierre Péladeau.
OK. Et donc, il était souverainiste?
Oui, Pierre Péladeau a été reconnu pour être souverainiste.
Oh, ok, d'accord. Parce que ça, c'est assez rare que dans le monde, pas du showbiz, mais de un peu l'élite économique ou même l'élite médiatique tout de même. Parce que quelles étaient ses fonctions à l'époque de Pauline Marois et cette époque-là? Carl Péladeau, il faisait quoi?
Pierre-Carl Péladeau était le PDG de Québécois. Dans le fond, il dirigeait tout ce qui était rapport à TVA Nouvelles, au Journal de Montréal...
C'est ça, d'accord. C'est tellement rare d'avoir, je trouve, une élite médiatique en faveur de la souveraineté.
Je ne sais pas si on peut considérer comme une élite médiatique, enfin, j'ouvre une petite parenthèse, mais c'est Jean-François Lisée qui est élu journaliste de base. Qui est
Oui, mais des journalistes qui prennent position sur la souveraineté, il y en a tout de même pas mal, en vrai. Mais oui, c'est ça.
Oui, merci. Mais en fait, ce que tu dis, j'ai l'impression que ça me parle d'une certaine... Enfin, j'ai l'impression que ça m'évoque une certaine chose de ce que tu dis. J'ai l'impression que c'est comme si le PQ, surtout en 2012-2013, avec un petit peu la divergence entre PKP qui lève son bras et qui dit on va faire l'indépendance et le référendum, et puis après ça, Pauline Marois qui dit un peu l'inverse. J'ai l'impression qu'en fait, ces contradictions, ça pave la voie à l'inverse à des gens qui vont en profiter pour dire vous ne savez pas ce que vous faites et nous, on sait ce qu'on va faire. Nous, on est contre le référendum, on est contre la souveraineté. Et nous, on va être élus. Et c'est ce qu'a fait le PLQ.
Philippe Couillard a beaucoup capitalisé sur l'ambiguïté de l'indépendance sur le Parti québécois lors de ces élections-là pour constamment rappeler que le Parti québécois va faire un référendum pour qu'après, le Parti québécois dise qu'il n'en aura pas tant et aussi longtemps que les Québécois ne seront pas prêts à en avoir un.
C'est ça. Et c'est ça la différence un peu avec le PQ aujourd'hui, avec PSPP. C'est que dans tous les cas, que les Québécois soient en faveur ou en défaveur de la souveraineté, il fera le référendum. C'est ça, PSCP, il s'assume. Parce que pour lui, c'est vraiment un devoir. Il faut donner une autre voix, qu'elle soit négative ou positive, au moins, question de représentativité, de légitimité démocratique, bam, on fait la souveraineté, même si on est seulement à 10% en faveur de la souveraineté, il veut le faire tout de même. D'ailleurs, je me demande, est-ce que Péladeau, lui, au contraire, si sous Pauline Marois, il avait moins une place parce qu'ils étaient moins souverainistes que maintenant, est-ce qu'il a tenté de se représenter pour le PQ actuellement? Parce qu'il aurait beaucoup plus sa place, je me dis, avec PSPP qui s'affirme sur la souveraineté et le référendum.
En fait, ce qui est arrivé après les élections, Pauline Marois a démissionné de son poste de chef du Parti québécois et Péladeau a réussi à se faire élire chef du Parti québécois. Et il y a beaucoup de sondages à l'époque qui disaient que s'il y avait des élections, Pelado aurait pris le pouvoir avec quelque chose comme 37 % des voix. Seulement, il y a eu des conflits dans sa vie privée en lien avec son ex Julie Snyder et il a renoncé à son poste de chef du Parti québécois et c'est Jean-François Lisée qui a pris la relève par après une autre campagne à la chefferie du Parti québécois.
Parce que moi, je ne connais pas énormément Jean-François Lisée. Je le vois quelques fois à la télévision, à la radio. Et même en France, des fois, il parle de quelques sujets. Quand c'est sur Radio-Canada pour parler de sujets français, il est là. Et c'est quoi un peu cette différence entre lui, Pauline Marois et PSPP? Est-ce qu'il était vraiment dans un peu la remontada souverainiste début Legault ou c'était toujours un peu le Jover qu'il y avait de Pauline Marois?
Jean-François Lisée avait une approche qui ressemblait davantage à celle de Pauline Marois dans le sens où il voulait être élu avec un mandat pour être un bon gouvernement et par la suite faire un référendum sur la souveraineté d'ailleurs. Ça fait très longtemps qu'il est impliqué au Parti québécois parce qu'en 1995, lors du deuxième référendum, c'est lui qui avait écrit la fameuse question référendaire sur la souveraineté que les fédéralistes ont jugé trop longue, pas assez claire, etc.
Celle de 95 ou celle de 80?
95.
Je crois que cette 95 était jugée comme bien parce qu'elle n'était pas trop longue et c'est la première sous l'évêque qui était trop compliquée, non?
Les deux questions ont été reprochées d'avoir été trop compliquées par le camp fédéraliste.
Okay. D'ailleurs, je voulais ajouter de quoi. On parle beaucoup de l'idée du référendum et sur le fait que le PQ est un petit peu précédent avec. Mais j'entends beaucoup parler pas mal de péquistes et d'indépendantistes qui disent qu'il y a d'autres options que le référendum. Donc, selon vous, quelles sont les autres options que le référendum qui sont envisagées pour l'indépendance, autres que la souveraineté, rapidement? Pas selon votre propre conviction, mais celles qui existent en fait, parce que j'avoue que je ne les connais pas tant que ça et peu de gens les connaissent.
Avant qu'on parle de référendum sur la souveraineté, on mentionnait que si un parti indépendantiste prenait le pouvoir, on déclarerait l'indépendance de façon unilatérale, comme le IRN voulait faire au début, et comme option nationale, qui a brièvement existé, voulait faire le temps de son existence. Puis après, lorsque le Parti québécois commençait à exister, il y a une nouvelle stratégie qui a émergé à partir de la stratégie Claude Morin, qui était le stratège du camp du oui à l'époque, qui voulait que le Québec soit un bon gouvernement pendant 4 ans. Puis après, on faisait un premier référendum sur la souveraineté. Finalement, Claude Morin aurait été un membre de la GRC et aurait donné des documents au Parti québécois, la GRC.
Je ne savais pas ça. Ta question, madame, c'était quoi?
D'autres options que le référendum pour atteindre la souveraineté. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'autres options proposées par certains péquistes ou certains militants marginaux aussi?
Je sais que... Il y a des militants péquistes, certains qui se disent... Parce qu'il y a l'argument que pratiquement aucun pays s'est formé avec un référendum ou un vote. Il y en a pratiquement aucun. Et actuellement, je ne peux pas en trouver dans ma tête. Il doit y en avoir. Mais bon, la majorité, ce n'était pas des pays qui sont formés par des votes. Les trois quarts, c'est vraiment soit par la prise des armes, soit juste un gouvernement qui se dise « bam on... ». Et en plus, ils ont une certaine légitimité populaire. Bon, peut-être pas la majorité, mais une certaine base assez forte. Et bam, il faut un pays. Et je sais qu'il y a peut-être quelques militants péquistes, peut-être QS, mais en vrai, les gars qui sont PQ sont plus souverainistes que QS généralement, même les militants. Donc ils sont un peu moins forts dessus, pas radicaux, mais c'est ça, ils s'affirment moins dessus. Mais je sais qu'il y a quelques-uns chez le PQ qui se diraient peut-être qu'on devrait juste, bam, dire qu'on fait la souveraineté, on fait un pays après qu'on arrive au pouvoir. Et je pense qu'il y en a qui ont posé beaucoup de fois la question à PSPP, et PSPP dit à chaque fois, oui, mais ça c'est dans un monde idyllique, mais nous on veut le Québec, l'argument du PQ, c'est on fait un référendum comme la Catalogne, comme d'autres pays. Enfin, des pays, c'est pas encore des pays, justement. Mais justement, peut-être un jour. Mais ultimement, c'est que si on fait un référendum, on fait ça dans la légalité et on a une légitimité à l'international. Si on déclare manu militari qu'on veut faire un pays et ensuite il y aura des manifestations dans la rue, il y aura des crises, etc., et des grèves et même des combats peut-être. Eh ben, il y a moins de légitimité à faire un pays. Donc, si on le fait de manière pacifique et on le fait avec référendum, ça peut être plus simple déjà, parce que un Québec souverain, ça a besoin de quoi? Moi, je suis moitié taïwanais. Moi, je suis pour le nationalisme taïwanais, comme l'écrasante majorité. Mais le problème, c'est que tu fais un référendum, c'est reconnu par personne. Ça sert à quoi, ultimement? Ça va pas t'aider sur la scène internationale. Et ce que le PQ veut réaffirmer, c'est qu'être capable d'avoir la souveraineté de manière légale pour être reconnue, par exemple par l'Union européenne, par la France, etc. Mais c'est sûr qu'il y en a certains qui, dans leur rêve, se disent « Bam, on arrive au pouvoir et on déclare la souveraineté. Peut-être qu'au Montréal, on le balance au fédéral. Ça deviendra une ville-État comme Singapour. » Mais voilà, c'est ça.
Parfait, merci. Ouais, on en apprend des choses. Bref, et je voulais, sans grande transition, passer à la deuxième grande partie de cette entrevue. Qui est donc là on a parlé pas mal des ambiguïtés de QS, enfin c'était le thème de la première partie, et là on va plus parler des ambiguïtés internes au PQ, mais des ambiguïtés internes dans le sens en dehors de la question référendaire. Le PQ se fait reprocher certaines choses pour ce qu'il propose en dehors du référendum, parce que le PQ en tant que parti ne propose bien évidemment pas que la souveraineté, parce que comme il veut exercer un mandat au minimum 4 ans, il doit forcément gérer le pays en parallèle du fait d'organiser un référendum. Et en ce sens, le programme hors souveraineté du PQ tend à provoquer des remous. Parce que pour certains, son programme va être trop à droite, et pour d'autres, son programme va être trop à gauche. Donc pour revenir à QS, pour QS, le PQ serait trop de droite, car QS se base notamment sur les orientations économiques du PQ adoptées à partir des années 1980, qui visaient à assurer la stabilité économique et financière de la nation. Donc je pense aux politiques déjà de René Lévesque dans les années 80, ou Parizeau dans les années 90 qui visait à intégrer le Québec à la mondialisation pour émanciper davantage du Canada, ou aussi le déficit zéro mis en place par Lucien Bouchard après 1995, une politique qui s'était plus ou moins maintenue sous Bernard Landry après, et puis même un peu récemment les propos de PSPP sur la bureaucratie qui lui entend vraiment réduire les bureaucraties et le nombre de fonctionnaires. Et ce que QS reproche aussi au PQ, c'est sa vision identitaire de la nation. Donc là, je pense évidemment au fameux l'argent et les votes ethniques de Parizeau le soir de 1995. Mais la position aussi assez ferme qui a été tenue durant la crise des accommodements raisonnables durant la fin des années 2000. Le projet de charte des valeurs de Pauline Marois entre 2012 et 2014. Plus récemment, le soutien à la loi 21 en 2019. Et encore plus récemment, les propos de PSPP sur l'immigration qui pointent son rôle supposé sur l'accès aux services ou la délinquance. C'est d'ailleurs des aspects qui expliquaient la montée de QS. D'abord, QS, contexte rapide, c'est un parti qui a été créé par des mouvements ou des militants qui avaient pris leur distance avec le PQ et qui voulaient justement faire une nouvelle option souverainiste, mais de gauche, et qui se distinguerait là-dessus du PQ. Mais à l'inverse, selon la droite, alors par droite, au Québec, j'entends tout ce qui tourne. C'est très grossier ce que je dis, mais ce qui tourne un peu autour du Parti conservateur du Québec de Éric Duhaime, ou de ce qu'on appelle un peu les radios pirates, et donc une droite qui est surtout à droite sur l'économie et selon ce que les détracteurs appellent la droite de Québec plein de choses de même. Bref, selon cette tendance, on accuse le PQ d'être trop de gauche. Et là-dessus, ils pointent notamment le projet économique du PQ qui, selon eux, n'est pas très sérieux dans leur propre vision, qui notamment est axé sur la mise en place de taxes comme la taxe carbone, qui est un peu des taxes qui sont partagées par une bonne frange des autres partis, ou aussi la mise en place de programmes sociaux, comme ça c'est beaucoup fait aussi. Je parle de la droite de Québec, la droite libérale, la droite un peu Duhaime compatible, parce qu'en fait, d'un côté, c'est pas un électorat qui est explicitement souverainiste. Mais d'un autre côté, il reste pas mal à viser par le camp du oui, en fait, ces derniers temps. Parce que, au sein de cette tendance, ils ne sont pas souverainistes. Il y a quand même des tendances patriotes, voire explicitement indépendantistes chez certains militants. Et ça implique aussi la CAQ, si on entend la droite québécoise dans une vision assez large. Donc là-dessus, on va revenir un petit peu dans les débats. Selon vous, est-ce que le PQ est effectivement d'extrême droite ou d'extrême gauche?
Tout d'abord, on devrait mentionner que le Parti québécois est un parti... Attends un peu, je vais juste reprendre mon idée. Ce qui est gauche et droite a beaucoup changé à travers le temps. Par exemple, pendant la majorité de l'histoire, on décrivait un parti de gauche ou de droite à partir de son programme économique. Et quand on regarde le programme économique du PQ, il est généralement à gauche. On parle de beaucoup d'investissements en matière de changement climatique, de répartition des richesses, de transport en commun avec la fameuse passe climat. Et ils ont fait appel à la même firme environnementale aux dernières élections que Québec solidaire pour bâtir leur programme pour protéger la planète. Mais sur le plan identitaire, ce qui est intéressant, c'est que la même position que le Parti québécois partage aujourd'hui est une position qui est très semblable à celle que le Parti des Québécois avait partagée dans les années 70 ou 80, alors que ça l'empêchait pas qu'on appelle le Parti québécois un parti de gauche. Pourquoi est-ce que ça a changé? Parce qu'on a deux modes d'analyse à partir de ça. On a une méthode universaliste qui veut mettre une égalité des droits par rapport à tous, peu importe leurs origines, etc. Puis une approche intersectionnelle qui veut qu'on mette des leviers, des accommodements à certains groupes qui sont défavorisés vers ces droits égaux-là. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment distinguer la position du Parti québécois par rapport à Québec solidaire, notamment sur la loi 21, qui vise à mettre tout le monde au pied d'égalité en interdisant certains signes religieux jugés plus ostentatoires. Dans le cas de Québec solidaire, on pense que ça l'enlèverait un levier aux musulmans pour travailler dans la fonction publique, par exemple.
Merci.
Oui, je trouve que l'analyse de Simon est très, très brillante, vraiment. Pour moi, le Parti québécois n'est pas d'extrême droite. Pour moi, Québec solidaire, d'ailleurs, je trouve même pas vraiment d'extrême gauche. Moi, je dirais Québec solidaire, c'est de gauche. Et PQ, c'est centre-gauche. Après, on dit centre-gauche et gauche, mais on est tout de même au Québec. Et au Québec, la politique est tout de même bien différente que le standard de gauche et droite que nous, les Français, on a créé durant la Révolution. Le Parti québécois sont le parti similaire en Europe qui est comme lui, c'est le Parti social-démocrate au Danemark, qui est un parti qui est clairement de gauche. Alors c'est pas de l'extrême gauche, c'est pas de la gauche radicale, mais c'est un parti qui est, les taux d'imposition sont énormes au Danemark. Je pense que les impôts sont de 70 à 80% pour la majorité de la population. L'État-providence est conséquent là-bas. Et donc, pour eux, l'argument, par exemple, la fameuse coquille dans le PQ qui fait douter des personnes à dire que c'est pas un parti de gauche ou de gauche radicale, c'est l'immigration. C'est le truc. Mais il faut comprendre quelque chose tout de même. Alors, certes, on est en 2025. Mais à l'origine, les partis qui sont contre l'immigration, ce sont des partis de gauche. En France, le gouvernement qui a expulsé le plus d'immigrants de l'histoire, c'était le SFIO, c'était la gauche communiste socialiste en 1930. C'était Mitterrand, le seul moment dans l'histoire de la France où l'immigration a baissé de la part totale de la population, c'était sous Mitterrand. Et Mitterrand il voulait même expulser les immigrants légaux en France. Et ça, c'est dans beaucoup de pays. On écoute Bill Clinton, on écoute Hillary Clinton, on écoute les démocrates jusque dans les années 2000. Ils étaient aussi fermes que les républicains sur l'immigration. Et au contraire, la droite, techniquement, ce sont eux qui sont pour l'immigration. Parce que c'est plus d'apports économiques, c'est plus de main-d'œuvre, c'est plus de personnes qui pourront consommer dans le pays, qui pourront cultiver la demande et l'offre et payer des impôts. C'est ça, ultimement. Donc, techniquement, c'est la gauche qui normalement de anti-immigration à l'origine, non pas partout, mais idéologiquement et normalement. Et donc c'est ça. Mais le PQ, pour moi, c'est un parti de centre-gauche, économiquement, comme Simon a dit, État-providence, aide sociale. Et sur l'immigration, ce que j'ai à dire, c'est que c'est comme le parti centre-gauche au Danemark, qui est, on limite l'immigration pour être sûr que les services sociaux et publics restent les plus efficaces que possible, dans tous les aspects. Et que ça bénéficie toutes les strates de la société. Et c'est ce que la gauche au Danemark dit. Et c'est ce que Alex Bissonneau, qui est le député PQ dans la Arthabaska, a dit dans sa récente vidéo sur l'immigration, qui est les études disent qu'il y a une baisse de la qualité des services, il y a une baisse du coût de la qualité de vie, s'il y a une immigration massive et incontrôlée. Donc, ils sont fermes sur l'immigration, mais pour défendre un programme économique qui est clairement de gauche. Donc c'est ça le PQ. C'est pour ça que c'est très intéressant et assez unique dans le monde occidental.
Merci beaucoup. Et ça rejoint pas mal à ce que je disais un peu, mon avis personnel sur la question. Le PQ effectivement est pas mal de gauche, ou plutôt de centre-gauche historiquement parlant. Alors pour moi, le PQ est de centre-gauche parce que c'est un peu une synthèse du mouvement souverainiste. Parce que le mouvement souverainiste, si on fait converger toutes les positions qui sont quand même pas mal diverses, parce qu'il y a des souverainistes très à gauche, genre comme QS, mais même encore plus à gauche, mais aussi des souverainistes qui sont très à droite. Mais quand tu fais la synthèse, grossièrement parlant, ça converge plutôt au centre-gauche. Et c'est même c'est la synthèse du Québec en général, d'une certaine manière, parce que si on fait un petit peu comme la somme, enfin, je sais pas si on peut faire une somme, mais si on fait un peu la moyenne des positions défendues, bah, pareil, ça converge pas mal au centre-gauche. Genre, un certain attachement au service public, mais qui est pas contre l'idée de les réformer parfois. Aussi, bah, pas contre une idée de contrôler l'immigration, ce qu'on entend beaucoup en ce moment d'ailleurs. Mmh. Et puis comme le PQ, depuis le début, comme disait René Lévesque dès la Fondation, le PQ a un préjugé favorable aux travailleurs, selon ses propres termes, d'où l'idée de mettre en place des programmes sociaux notamment. Mais aussi, voilà, le PQ a connu des passages un peu plus néolibéraux, comme j'ai dit, à partir des années 80. Et aussi, l'intégration à la mondialisation, le déficit zéro. Ça, c'était en fonction de la conjoncture économique. Et c'est ce que c'est pas mal là-dessus que QS a surfé. Et puis, comme tu disais aussi, c'est un avis que j'avais, c'est le PQ, bah, c'est pas mal proche de la gauche danoise, dont laquelle se réclame explicitement PSPP, qui a d'ailleurs vécu au Danemark et qui va peut-être l'a influencé en un sens. Mais en tout cas, ça rejoint
ça. Oui, je pense, ouais.
Mais moi, mon avis personnel, enfin... Donc en tant que Français aussi, donc, une comparaison un peu grossière, pour moi le PQ c'est comme le Parti Socialiste en France, donc c'est un parti de base assez résolument de gauche, du moins de, pas d'extrême gauche mais de gauche surtout sur le côté économique, mais qui n'est pas non plus dogmatique, qui a varié un peu parce que le PS en France aussi a connu ses passages néolibéraux. Et puis aussi le PQ sur ses passages un peu plus identitaires, même le PS a eu ça, tu as parlé de Mitterrand et...
Oui, mais le problème, c'est que ça, c'était il y a 40 ans. Et il faut comprendre qu'en fait, le PQ et le QS, c'est deux versions de la gauche. Le PQ, c'est la vieille gauche. La vieille gauche, c'est la défense des travailleurs, la nationalisation, mais aussi des valeurs nationalistes. Le concept de nationalisme, c'est un concept de gauche qui date de la Révolution française. C'est le fait de faire nation, de s'unir, de briser les chaînes des différentes strates de la société et s'unir autour d'une culture, d'une identité et d'un idéal social et politique. Et ça maintient une politique clairement de gauche économique, et c'est aussi généralement ferme sur l'immigration. Et Québec solidaire, c'est l'incarnation un peu de la nouvelle gauche. Mais pas complètement, parce qu'on est au Québec, et la gauche au Québec, historiquement, est nationaliste, et souverainiste. Donc c'est une vision de la nouvelle gauche, mais qui a un aspect de faire vibrer la nation, la patrie. Et c'est ce que je trouve pas avec le Parti Socialiste en France. Le Parti Socialiste en France, jusque dans les années 2000, même sous Hollande, je trouvais que ça faisait encore un peu la vieille gauche. C'était économiquement, c'était de gauche et c'était pas des progressistes comme la droite dirait des wokistes. On catégorisait pas ce parti-là comme tel dans les années 2000. Alors que les années 2000, tout de même, c'était l'époque Yannick Noah où t'avais des philosophes de gauche qui étaient partout. Il y avait SOS Racisme qui était partout et les médias de gauche étaient très prominents. Et malgré ça, un cadre médiatique qui était plus à gauche que maintenant en France dans les années 2000. Malgré ça, on ne catégorisait pas le Parti Socialiste comme un parti woke, radical progressiste. Non, c'était un parti populaire, c'est ça. Et c'est ce que c'est pour le PQ. Mais le Parti Socialiste en France l'est beaucoup moins, comme tous les partis de gauche en Occident, pratiquement. Mais Québec solidaire est capable de maintenir, parce qu'il y a tout de même cette fibre nationaliste dans la gauche historique du Québec qui fait que ils sont nouvelle gauche, mais un peu moins qu'on pourrait dire même les démocrates ou les complètement mondialistes, parce que c'est ça, beaucoup de nouvelles gauches sont mondialistes, multiculturalistes, ils le sont, multiculturalistes et mondialistes, mais à un degré un peu plus faible. Mais c'est ça, c'est deux types de gauche, la nouvelle gauche avec un twist québécois et la vieille gauche avec le PQ.
Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. En fait, voilà, quand j'ai parlé du PS, j'ai pas été très précis, mais ma pensée plus précise que j'ai là-dessus, c'est un peu comme un genre de PS, mais peut-être pas comme le PS actuel qu'il a, et peut-être un peu plus associé au wokisme. Enfin, c'est un peu une longue histoire, on pourrait en parler dans une autre vidéo. Enfin, un peu plus au wokisme, à la politique identitaire de manière un peu plus objective. Et bref, pour moi, le PQ, c'est comme une sorte de parti socialiste alternatif, comme une uchronie dans un monde alternatif où il serait resté un peu plus républicain et universaliste dans ses valeurs, voire qu'il ne serait pas contre un certain contrôle de l'immigration. Donc, je parle un peu des personnalités random là-dessus, mais je pense par exemple à Manuel Valls, qui lui est considéré comme pas mal plus à droite sur des questions identitaires ou du moins de contrôle d'immigration, mais aussi sur l'économie. Je pense aussi à Montebourg, qui est quand même pas mal à gauche sur l'économie, mais considéré comme un peu plus conservateur sur l'identité, l'immigration et compagnie. Enfin, au PS, ça n'a pas manqué ce genre de personnalité, même si elles sont un peu marginales aujourd'hui. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est un peu comme un PS des années 90-2000, en fait. Et donc, au final, c'est pas mal un genre de parti social-démocrate lambda qu'on peut trouver en Europe, mais peut-être en plus universaliste en fonction des cas. Après, je connais pas tous les partis socialistes en Europe, mais... Bref, merci beaucoup pour votre éclairage sur ce thème. Après la dernière pause, ce que je propose de faire, c'est de conclure en se demandant est-ce qu'il va y avoir un autobus commun du oui ou est-ce qu'il va y avoir plusieurs autobus ? Nous revenons à cette émission pour encourager la dernière partie. Et bref, ma dernière question, en fait, c'était pour savoir par rapport au fait qu'il y a comme des dissensions internes au camp du oui, notamment avec QS. Et comme on en a parlé un petit peu aussi avec la droite québécoise, qui était parfois un petit peu... qui n'est pas complètement étanche à l'idée de voter oui, mais qui était un petit peu réticente à l'idée de voter oui, parce que justement avec l'état du PQ qui serait trop de gauche pour eux. Je voulais savoir combien d'autobus il y aurait dans le camp du oui, parce qu'on parle souvent d'un autobus commun du camp du oui qui rassemblerait tout ce camp-là, quelles que soient les divergences d'opinion, même si c'est des gens très à droite ou très à gauche. C'est une idée qui était notamment mise en avant dans le cadre du deuxième référendum de 95 qui a rassemblé autant des gens de droite comme Mario Dumont, aussi des gens très à gauche qui eux, étaient complètement opposés à Parizeau. Mais à l'inverse, certains souverainistes laissent entendre une idée inverse, l'idée qu'il y aura plusieurs autobus du camp du oui, comme Ruba Gazal, une des co-porte-parole de QS, qui elle dit j'embarquerai pas dans l'autobus de PSPP avec ce qu'il dit sur l'immigration et plein de choses. Bref, je vais laisser l'honneur à Simon. Y aura-t-il un autobus commun ou plusieurs autobus ?
Y aura-t-il plusieurs autobus dans le camp du oui ? Je pense que oui. D'abord, Québec solidaire, j'aurais tendance à dire oui, mais. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Par exemple, les prochaines élections sont dans un an et Québec solidaire sont très mal positionnés dans les sondages, à entre 6 et 8 selon Québec 125. Et ça va dépendre de quelle façon ils vont faire campagne et de quelle façon ils vont analyser leurs résultats électoraux. Parce que oui, les deux porte-parole de Québec solidaire se sont affichés comme indépendantistes et Sol Zanetti, ancien chef d'Option nationale, a affiché que s'il y avait une campagne référendaire menée par le PQ, il soutiendrait le camp du oui. Mais Québec solidaire est un parti qui est beaucoup orienté par ses membres, comme par exemple, on va revenir avec la loi 21. Avant, sur cet enjeu-là, Québec solidaire était en faveur... des conclusions du rapport Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables. Puis, après les élections 2018 où la CAQ a pris le pouvoir, ils ont eu une réunion par rapport à leur position sur la laïcité. Les membres ont décidé qu'il ne devait pas y avoir de restrictions et il y a eu une première forme de scission au sein de Québec solidaire. Depuis, il y en a eu d'autres et étant donné que la place que prend l'indépendance chez Québec solidaire est pas assez grande, mais juste assez basse pour que ça puisse déchirer encore le parti, admettons, qui prenne une position plus claire sur cet enjeu-là. Comme les membres de Québec solidaire se déclarent indépendantistes, mais leur électorat est en majorité pour le non, si jamais il y avait un vote de référendum. S'ils tranchent, il y a des bonnes possibilités que l'électorat de Québec solidaire soit tranché et que Québec solidaire se remette en question quant à son avenir. Puis dans le cas des conservateurs du Québec, ils se ramassent dans une position qui n'est pas si différente de Québec solidaire. Je veux dire, il y a une sorte d'ambiguïté, de légère ambiguïté sur la question de s'il devait appuyer le camp du oui. Par exemple, les conservateurs, Éric Duhaime, il dit que si jamais il y a un référendum de sa souveraineté, ce serait une mauvaise idée parce qu'on perdrait le référendum et que ce serait désastreux pour le Québec. Ce qui laisse envie de penser que peut-être il aurait envie de voter pour le camp du oui. Seulement, il avait déjà affirmé que la souveraineté est une idée dépassée et il va continuer de capitaliser dessus pour essayer néanmoins d'obtenir les votes des ex-caquistes, le parti qui se rapproche le plus de leurs idéaux. Dans le cas de la CAQ, parti autonomiste, comme l'était l'ADQ, comme l'étaient même des partis plus vieux comme Duplessis, qui n'a pas vécu à l'époque d'un référendum. François Legault a déjà été souverainiste, il a été au PQ en 1998, il était un fervent indépendantiste convaincu, et il a contribuer en fusionnant la DQ avec son projet à créer la CAQ. Un parti attrape tout. C'est-à-dire qu'il va attaquer et un peu attraper des opinions populaires pour en faire un parti. Le parti va s'adapter aux idées du moment, comme si jamais la tendance en vient à gauche, le parti va s'orienter plus à gauche et inversement. J'ai l'impression ici qu'ils n'appuieront pas le camp du oui, parce que c'est ce qui les distingue un peu de l'ADQ. Ils sont plus centristes, mais sont aussi plus axés sur la Fédération canadienne, ce qui les avait aidés à avoir des votes sur les libéraux en 2012.
Bah oui, je suis assez en accord par son analyse. Oui, c'est ça. Après, l'ADQ était tout de même pour la souveraineté, Mario Dumont et tout cela. Et je pense que ce qui manque pour... est-ce qu'il y aura plusieurs bus? Bah, de toute façon, si le PQ arrive au pouvoir, bah, tout le monde aura intérêt d'être dans le même bus pour l'intérêt de la souveraineté et du PQ. Sinon, le PSPP n'aimait pas Ruba Gazal. Ruba Gazal faisait une semi-croisade contre le PQ en disant qu'on est pour le oui, mais pas celle du PQ. Et PSPP avait dit... j'espère que Solzanetti va être là pour rehausser le niveau du débat et du discours. Et Solzanetti est maintenant là, co-porte-parole de QS. Donc peut-être que là, légèrement un peu plus dans la même longueur d'onde entre le PQ et QS. Mais je pense que s'il arrive au pouvoir en l'année prochaine, en octobre-novembre, il faudra voir quels seront les accords. Peut-être qu'il y aura quelques accords à faire, quelque chose à faire, mais je vois mal le QS sacrifier leur volonté de défendre le camp du oui pour juste parce qu'ils n'ont pas écrit tolérant ou inclusif dans une charte de je sais pas quoi. Je les vois très mal faire ça. Donc je pense que tout le monde seront dans le même bateau, ces deux-là. Peut-être qu'il y auront peut-être quelques frictions, mais en vrai, il faudrait qu'il n'y ait pas vraiment de friction. Tout de même, parce que sinon, ça ne va pas aider leur campagne. Et tout voit. Compte pour le référendum, ce qu'on a vu avec 95. Les conservateurs, ouais, comme tu as dit, c'est un peu compliqué. Le problème, c'est vraiment l'économie. Je connais quelques personnes qui ont voté du M ou qui sont conservateurs au fédéral ou au provincial. Et le problème, c'est l'économie. Et le problème, c'est que c'est pas l'économie seulement avec les conservateurs, mais aussi avec la CAQ. La CAQ et les conservateurs s'unifient dans certains aspects économiques. Ce sont deux partis qui sont soit de centre-droit, soit très à droite. Donc, ce qu'il faut vraiment pour qu'on est capable, pour que PQ soit capable d'avoir le vote de la droite, qui est tout, la droite économique, elle a votre droite économique. À Tabarouette, elle est tout de même bien grande. Hein, parce qu'on a tout de même au moins la moitié des libéraux qui sont plus économiquement de droite que le reste. On a pratiquement toute la CAQ et on a tous les conservateurs. Donc, il y a tout de même beaucoup de droite économique. On ne se rend pas compte au Québec, c'est tout de même pas mal. Donc, ce qu'il faut, c'est être capable de pomper un peu cet électorat économiquement de droite. Et donc, comment on le fait? Je n'ai pas la réponse vraiment, mais je pense que le PQ devra vraiment œuvrer pour aussi avoir le vote de la CAQ, le vote des conservateurs, parce que ça peut vraiment les booster de au moins 20%, ou 15 à 20%, 25% dans le référendum. C'est ça. Le seul camp qui seront bien sûr. Parce qu'en vrai, disons que dans un monde idyllique, ils sont capables d'unifier tout le monde. Conservateurs, avec du M qui se dit bon, allez là. Parce qu'en vrai, les conservateurs, ils peuvent se dire dans un Québec souverain, on pourrait être le parti de droite. Hein, parce que quand tu deviens souverain, tu as des partis politiques à ton propre parlement, on va être le parti droite, on a un avenir politique, on peut représenter la population québécoise encore mieux. Et peut-être qu'eux, ils se disent qu'avec les libéraux, on n'est pas aidés non plus. Voilà, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur l'économie, l'inflation et tout ça, la crise. Donc peut-être qu'il faut faire un pays, peut-être qu'ils vont dire ça. Et on est aussi capable d'avoir un peu de la CAQ, tout ce qui manqueront, c'est les libéraux. Et les libéraux, en vrai, ça, c'est un peu une cause perdue pour convaincre, je pense, pour les souverainistes. Ils n'en parlent jamais d'eux, mais il ne faut jamais oublier le poids de l'électorat économique de droite au Québec. PLQ, CAQ, conservateur, c'est là où il y a une réserve de voix énorme et on n'en parle pas assez.
Oui, effectivement. Le Parti québécois, ça fait quelques années déjà qui... Tu sais, le Parti québécois est un parti qui est toujours de gauche, à mon avis, mais le Parti québécois commence à essayer d'orienter son message vers un discours qui est un peu plus de centre-droit que l'était juste avant les dernières élections provinciales. Par exemple, avec les déficits qui ont été accumulés aux dernières années au fédéral et au provincial, le Parti québécois temps à vouloir parler de saine gestion des finances publiques et d'aller chercher de l'argent de la part du fédéral pour promouvoir son projet d'indépendance. Étant donné qu'il y avait beaucoup de... les différents mouvements indépendantistes avaient tendance à être de gauche à travers les années, mais les gens de droite, eux, il y avait le réflexe de dire si le projet relié à l'indépendance n'est pas relié aux idées que je défends par rapport au Québec ou au Canada en général, je ne verrais pas pourquoi j'appuierais le projet de l'indépendance. Alors qu'un pays, il y a beaucoup de pluralisme en matière de partis et d'orientation possible pour l'économie et la politique. Est-ce qu'on continue de se fier à Hydro-Québec pour notre électricité? Est-ce qu'on exploite nos ressources naturelles? Qu'en est-il des taxes? Est-ce qu'on va monter les impôts? Est-ce qu'on va continuer de financer les programmes environnementaux? Est-ce qu'on va accroître notre filet social? C'est des questions qui vont devoir se poser une fois l'indépendance faite. Mais les gens se posent la question avant d'appuyer l'indépendance et ça peut être considéré comme une erreur étant donné que l'indépendance n'a pas nécessairement d'influence sur le programme du gouvernement. On confond souvent les deux.
Effectivement, oui, on confond un peu souvent les deux et c'est là où beaucoup de gens se trompent, je trouve, s'ils disent... si beaucoup de gens de la droite dont on parle, ils vont dire « si le Québec est indépendant, ça va être un Québec d'extrême-gauche parce que vous avez vu le programme du PQ ». Mais c'est justement pour ça qu'en soi, le référendum est peut-être une idée judicieuse, du moins pour les souverainistes, car justement, ça permet un peu de toucher au-delà du parti, en fait, et de démontrer qu'en fait, non, le référendum, c'est pas l'idée d'un parti, et même d'un parti au pouvoir, c'est l'idée de tout le peuple québécois aussi. Puis j'ajouterais même de quoi un peu, c'est Éric Duhaime qui lui-même disait « Non, jamais je soutiendrai un référendum, c'est une mauvaise idée », et il disait que genre... un référendum au Québec, ce serait forcément perdant. Et comme on l'a vu avec les deux derniers référendums, un référendum qui perd, c'est très mauvais pour le Québec dans les années suivantes. Donc non, je ne vais pas soutenir. Il a même dit qu'il voterait non. Mais ce qui est une position assez intenable en soi, parce que je ne sais pas comment formuler ça, mais si pour lui, un référendum perdant est mauvais pour le Québec, s'il y a un référendum organisé par le PQ, tu votes oui, parce que tu dis toi-même qu'un référendum perdant, c'est mauvais. Donc... je pense qu'en soi, ce sera peut-être plus au dernier moment, mais je pense que PCQ avec Duhaime, du moins en bonne partie, n'aura pas le choix de voter oui. Peut-être en se passant le nez un peu, mais après, voilà, la manière dont je vois, dont QS d'une part et PCQ de l'autre a un petit peu joué les ambiguïtés sur l'indépendance, je vois que c'est surtout une manière un peu d'imposer des conditions à l'indépendance, des conditions propres à leur venue dans le camp du oui, mais surtout parce que le prochain référendum, il ne sera pas avant 4-5 ans, en fait. Mais je pense qu'au dernier moment, enfin, du moins au dernier moment, genre un an ou deux ans avant, là, je pense que le camp n'aura pas le choix de se converger, voire peut-être même en un autobus commun. Je pense que ça n'ira pas de soi en soi, mais je pense que tant que tu es souverainiste, même si tu imposes des conditions, au moment venu, le choix que tu auras à faire, c'est voter oui ou voter non. Il n'y aura pas d'entre-deux, il n'y aura pas un autre projet de pays. C'est un projet de pays, oui ou non. Donc là-dessus, je pense que QS, il y aura peut-être des frictions, mais surtout avec le tandem actuel, ils voteront oui, ils n'auront pas le choix. Et peut-être même le PCQ. Et comme on disait, la droite québécoise aussi, Aurélien, tu disais, c'est un électorat à ne pas sous-estimer. C'est d'ailleurs pour ça que je me dis, si cet électorat confirme son poids toujours dans les votes, et si QS en parallèle connaît un déclin, peut-être que le camp du oui aura aussi peut-être à se droitiser. Donc ça, c'est de quoi dont on pourrait parler dans une autre émission. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre intervention fort éclairante sur le sujet. Donc c'est la fin de l'émission. Merci à nos auditeurs de la CFAQ 88.3 de nous avoir suivis. Nous reviendrons la semaine prochaine, jeudi à la même heure, de 13h à 14h, pour continuer à jaser politique. Merci.